Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dalle.
Alors aujourd'hui dans Ecclésia Magazine, nous allons parler d'un spectacle Vox Sanguinis qui met en scène la grande île de garde de Bingen. L'ensemble médiéval Vox in Rama propose ce vendredi de découvrir la célèbre abbesse du XIIe siècle au travers de ses visions, ses écrits, ses symphonies, ses réflexions thérapeutiques. Dans un drame musical original à la fois contemporain et médiéval, on va en parler aujourd'hui avec notre ami Frédéric Rentière qui est ici et qui dirige justement ce spectacle. Frédéric, bonjour.
Bonjour Maxime.
Vous avez déjà une réflexion à faire?
Déjà ? Ah non, c'était parfait la façon de vous introduire.
C'est parfait. Super. Alors, on a déjà parlé sur cette antenne d'Île de Garde de Bingen, des vertus du chant, des vertus thérapeutiques, oui, du chant. On va peut-être y revenir quelques instants. Alors, cette fois-ci, vous revenez sur notre antenne pour parler d'un spectacle qui va avoir lieu donc ce vendredi.
Vendredi et samedi, en fait.
Ce vendredi et samedi.
Voilà, deux représentations à 20h à l'église évangélique donc Saint-Marcel, Port-Royal, en fait. RERB Port-Royal, donc 24 rue Pierre-Nicole.
Voilà, on va revenir, oui, après sur les modalités, bien sûr, pour participer à ce spectacle. Alors, venons-en donc à ce spectacle. C'est un montage pour faire découvrir la vie d'Île de Garde de Bingen. C'est un spectacle musical.
Ce n'est pas un montage, c'est un mystère, en fait.
Oui.
Effectivement, d'ailleurs, on a réfléchi au titre, ouais, et puis on n'a pas choisi spectacle, mais mystère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est inspiré des mystères médiévaux qui étaient représentés souvent donc au Moyen-Âge et qui, justement, essayaient de remettre en scène, à l'aide de chants, de textes sacrés, une dimension mystique cachée dont on ne parle pas de manière habituellement ouverte. Voilà, donc c'est le propos. L'idée, c'est en repartant donc des textes d'Île de Garde de Bingen, il n'y a aucune transformation des textes, de repartir de ces chants, de ne pas simplement faire un panorama historique de sa vie, ce qui, je pense, a déjà été fait, même très très bien fait, mais de rentrer vraiment dans ce qu'elle entend par les visions qui mêlent vision lumineuse, angélique, qui mêle à ces visions angéliques des sons, puisqu'elle voit des sons, qui mêle des couleurs, des perceptions de chaleur, notamment de feu, d'eau, d'humidité, etc. C'est de rentrer dans son univers, dans l'univers mystique, en fait, d'Île de Garde. C'est ça qui m'a intéressé.
Alors comment justement faites-vous dans le cadre d'un spectacle ?
Oui.
Car vous n'êtes pas un illusionniste ou un magicien.
Non, justement, il ne s'agit pas de magie, justement. Il n'y a aucun effet d'illusion recherché puisque c'est pris au sérieux, le sujet est pris au sérieux. Alors comment ? D'abord en essayant de resituer Île de Garde dans le drame terrestre, on pourrait dire, de sa vie, qui est que bien qu'elle était une des femmes les plus puissantes de son temps, qu'elle était en lien avec Bernard de Clairvaux et qu'elle avait des relations directes avec les papes de son époque, elle était quand même toujours embutée contre sa hiérarchie ecclésiastique. Elle a elle-même voulu fonder son propre ordre, écrire les chants et les textes de sa propre liturgie, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça peut poser quelques problèmes. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment indiscutable. Et elle a finalement, jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, c'est ce que dans le mystère, on va essayer de bien faire sentir, c'est qu'à la fin de sa vie, elle a même subi donc une sentence d'excommunication.
Ah oui.
L'idée est justement de comprendre pourquoi elle en est arrivée là à la fin de sa vie et de remonter l'histoire justement de sa vie et d'essayer de comprendre le hiatus qu'il y avait peut-être entre le monde ecclésiastique de l'époque et elle, les visions qu'elle avait qui dépassaient largement effectivement les limites de son temps.
Parce que ces
visions... Et qu'en même temps le transcendaient. Et c'est ça qui est intéressant.
Parce que ces visions justement étaient reconnues à son époque.
Oui, alors elles étaient reconnues de son vivant justement grâce à l'intervention de Saint-Bernard. Mais il n'empêche que même s'il y avait cette reconnaissance du haut, en fait, de la tête papale, à l'intérieur de l'Église, c'était beaucoup plus compliqué. Et effectivement, il y avait après des problèmes de lèse-majesté. Effectivement, elle cherchait l'indépendance totale, ce qu'elle a trouvé d'ailleurs en faisant installer son monastère au Saint-Rupert.
Ouais.
Mais ce qui, pareil, est quelque chose qui ont le même encore aujourd'hui. Quelqu'un qui souhaite une autonomie complète, en général, a quelques problèmes, surtout quand il appartient à l'Église.
Ouais.
Voilà, donc évidemment, ça, c'est la dimension. Ce n'est pas du tout, on ne fixe pas sur cette dimension, mais en tout cas, on va quand même passer par cette dimension-là et très vite rentrer. Et là, là, je l'ai un peu vu comme le paradis de Dante, puisqu'un peu, il y a un petit peu quelque chose de, qui prépare Dante, justement, notamment le paradis, avec cette notion, justement, de chant qui entoure le corps d'Hildegarde, qui entoure l'esprit et l'âme d'Hildegarde. Et l'idée, c'est qu'il y a toute une partie du spectacle, enfin, du mystère, qui essaye de faire rentrer les gens dans ces voix angéliques. Qu'est-ce que c'est, ces voix angéliques qui la transforment et à chaque fois, lui, l'informe de choses qui vont transformer sa pensée et qui vont faire qu'elle va carrément devoir écrire ces choses qui lui sont transmises sous forme de traités de médecine. Et on apprendra la question de la médecine, la question de la guérison, qu'est-ce qu'elle entend par la guérison, notamment le lien avec les pierres, puisque c'est un thème qui intéresse beaucoup aujourd'hui, mais qui est quand même fascinant, c'est la fonction des pierres et des gemmes, des pierres précieuses dans la création.
Ouais. D'ailleurs, je crois que vous allez proposer justement un atelier sur la pensée médicale d'Hildegarde.
Voilà, alors juste avant, justement, ça c'est une idée nouvelle, on propose à 18h, donc une heure, entre 18h et 19h, avant les deux spectacles, donc dans le même lieu, à l'église Saint-Marcel, de faire une découverte, ou de découvrir ou de redécouvrir ensemble ce que la pensée, en fait, l'anthropologie, spirituelle d'Hildegarde, c'est-à-dire la pensée qu'elle a sur le corps et le fait qu'effectivement le chant, si on rentre bien dans la pensée qu'elle a sur le corps, et ce qui est un peu le but de ce spectacle, c'est de comprendre ce qu'elle pense du corps et de l'éprouver de manière sensible, j'essaie de préparer les gens intéressés à rentrer par des exercices vocaux, un travail sur la résonance du corps pour comprendre, rentrer dans l'intelligence d'Hildegarde de Bingen. Parce qu'elle a une pensée qui aujourd'hui et peut beaucoup nous apporter la relation notamment entre microcosme, le corps humain, en lien avec le macrocosme, le firmament par exemple. Ça sera le thème de l'atelier justement.
Frédéric Rentière, justement, cette figure d'Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, c'est chose assez peu commune d'avoir une aussi grande figure féminine catholique tout de même.
Oui.
Comment expliquer, si je puis dire, question peut-être un peu naïve, son rayonnement, parce qu'elle avait un couvent aussi qui rayonnait, et c'est cette ferveur qui était autour d'elle.
Alors, effectivement, elle a, de ce que j'ai pu lire des ouvrages spécialisés, elle a bénéficié d'une ferveur immédiate et qui, après sa mort, s'est enflammée. Malheureusement, il y a eu un blocage au niveau de la tête, justement en haut, puisque sa procédure de canonisation, par deux fois, a échoué. D'accord. C'est ce qui fait que, d'ailleurs que Benoît XVI, il n'y a pas très longtemps, donc elle a reconnu comme sainte, mais également comme reconnue dans toute l'Église romaine finalement, et puis elle a aussi nommé quatrième docteur de l'Église femme. Bon, mais c'est comme si c'était à rebours une reconnaissance qui aurait dû arriver plus tôt, puis voilà, le retard a fait que du coup elle a eu les deux reconnaissances en même temps. Donc elle a, paradoxalement, on va dire, sa position est paradoxale, puisqu'elle a eu effectivement une reconnaissance immédiate. D'ailleurs, les moniales qui se sont occupés qui ont fait suivre justement sa mémoire, qui ont voulu la transmettre et la faire vivre, ont joué un grand rôle. Mais malheureusement, la procédure de canonisation n'a pas pu aller au bout à l'époque. Voilà. Et en même temps, aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a effectivement le visage de la sainte, mais il y a aussi le visage du médecin, mais du médecin de l'âme. Et ce visage du médecin de l'âme, il fascine le 20e et surtout 21e siècle, parce que aujourd'hui, la médecine, on le sait, elle est complètement coupée de la dimension de la prêtrise. Le prêtre est médecin de l'âme, normalement. En tout cas, il l'est historiquement. Ces deux disciplines ont été séparées. Or, elle ne dissocie à aucun moment, quand on traverse même ses écrits mystiques, les visions, le livre des œuvres divines ou d'autres ouvrages que je lis régulièrement et que j'utilise comme matériau pour le spectacle et pour l'atelier, je suis très surpris que sa pensée la pensée thérapeutique et médicale, elle est à l'intérieur même de ses visions. Donc la notion d'âme et de corps n'est jamais dissocié, et du coup la médecine elle-même n'est pas simplement quelque chose qu'on applique ou qu'on utilise quand le corps souffre, mais on s'intéresse tout de suite à la relation entre l'âme et le corps, et ce qu'elle développe extrêmement bien et qu'on a totalement perdu aujourd'hui, la question d'esprit, c'est-à-dire la relation, en fait, ce qui fait le lien, et ça dans le spectacle, il y a une scène justement sur laquelle on a travaillé là-dessus, l'esprit est en lien de l'âme en tant que volonté, et le corps en tant que instrument des sens par lequel on perçoit.
Voilà. Et cette mission justement d'Hildegarde sur cette thérapeutique du corps aussi qui est fort importante, c'est une intuition divine ou c'est une intuition
Question parce qu'à l'époque déjà c'était la question que se posaient les gens dans la procédure de canonisation. On sait très bien en quoi consiste une procédure, une enquête en vue de la canonisation. C'est de savoir si c'est vraiment les guérisons qui ont eu lieu, les propos tenus, etc., sont vraiment des sens divines ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une inspiration peut-être diabolique, parce que c'est une question qui se posait souvent à l'époque, le problème de la sorcellerie, etc., la magie noire. Bon. Voilà, donc, alors répondre à cette question, en tout cas, elle était tranchée, puisqu'elle a été canonisée. Donc voilà, mais il faut savoir aussi que toute l'œuvre d'Hildegarde n'a pas été reconnue par le processus de canonisation, puisque justement le traité de médecine et le physica, qui à l'origine d'ailleurs ne faisait que physica, c'est le traité justement sur les éléments, les subtilités des éléments, c'est à l'origine ne faisait qu'un. Et puis dans la tradition manuscrite, se sont lentement séparés. Et ces écrits, comme ils n'ont pas été capitulés du vivant d'Hildegarde, ont été un peu mis de côté. Et c'est ça que je trouve dommage, et c'est ce qu'on essaye justement de remettre au centre dans ce spectacle, c'est que je pense que c'est une erreur de dissocier justement la pensée médicale de sa pensée mystique. Ce serait d'un côté considérer qu'il y a la théologie, de l'autre la médecine, et c'est de nouveau reséparer le corps de l'âme. C'est-à-dire on traite le corps, la médecine traite le corps, et puis il y a la question de la théologie et la question du salut de l'âme. Et je ne pense que ce n'est pas du tout la pensée de Hildegarde de Bingen. À aucun moment il y a cette séparation moderne, matérialiste, à aucun moment. Donc justement, l'intérêt est justement de remettre en scène toutes ces dimensions corps, âme, esprit, en repartant vraiment des textes, en ne trichant pas avec le personnage, et en essayant, et ses musiques, et en essayant vraiment de vivre ça de manière sensorielle, de manière concrète, puisque c'est ce qui manque le plus souvent pour cette dimension-là, c'est la dimension concrète. Voilà, on a des gens qui parlent très très bien de ça, mieux que moi.
La pratique, toujours.
Oui, voilà, parce que finalement, il s'agit quand même de ça, et c'est ça qui peut toucher les gens qui, eux, ne connaissent pas ou ont envie de connaître ou connaissent déjà.
Mais à vous écouter, c'est vrai que souvent, il y a des lieux communs sur le Moyen-Âge, les âges sombres, les âges un peu barbares, alors que finalement, c'est l'un des âges les plus prolifiques, justement, en termes de peut-être d'idées, d'intuitions spirituelles, de créations artistiques aussi, bien
évidemment. Et le XIIe siècle est fascinant parce qu'il n'y a pas encore... La pensée scolastique est encore à sa naissance et elle n'est pas encore suffisamment installée et théorisée pour... c'est pas encore la triomphe totale de la logique, si vous voulez. Donc à cette époque-là, il y a encore une place pour ces intuitions puissantes, justement.
Alors Frédéric Antière, justement, ce spectacle Mystère Vox Sanguinis qui sera donc donné vendredi et ce samedi, on va revenir sur les horaires et sur le lieu exact. Vous avez fait un panaché de plusieurs textes d'Hildegarde de Bingen, mais il y a une linéarité quand même dans le spectacle où on part un petit peu par-ci et par-là.
Il y a effectivement un fil conducteur. Le fil conducteur sera d'abord la dimension, le combat terrestre, ce que j'appelle le combat terrestre, c'est-à-dire le travail qu'elle va faire pour faire lever la sentence d'excommunication. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans ce qu'elle va faire mettre par écrit, c'est qu'elle va révéler le secret du chant. Donc j'ai voulu commencer le spectacle par ça. Puisque pour elle, elle va devoir révéler le secret du chant et de sa fonction thérapeutique, justement, pour... faire lever, parce que vous savez très bien que quand un monastère subit une sentence d'excommunication, il n'a plus le droit de chanter, il n'a plus le droit de communier, etc. C'est vraiment une interdiction d'activité et de l'activité fondamentale du monastère.
Cette excommunication, elle a duré longtemps d'ailleurs ?
Non, selon les historiens, c'est très discuté, mais elle a probablement duré un an. D'accord. En tout cas, certains disent qu'elle a été levée après sa mort, puisqu'elle est morte quelques temps après. D'autres disent non, elle a été levée de son vivant, mais en tout cas, elle a bien été prononcée, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est surtout ce que ça va faire sortir d'elle qui est intéressant. Et ensuite, il y a la dimension justement un peu Dante, que Dante va développer et magnifier, le joyau de Dante, ça va être justement le travail de l'ascension, de l'ascension de l'âme dans la rencontre avec le chant angélique. Donc ça, c'est la thématique centrale, bien sûr, et c'est là où la musique intervient beaucoup. Et puis la dernière partie, ça va être la question de la médecine aujourd'hui. Justement, existe-t-il encore une médecine de l'âme ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que Hildegarde peut nous apporter ? Et là, on va travailler sur ce qu'elle appelle elle. Là, on prendra aussi ces termes, la voix du premier Adam, c'est-à-dire la voix avec contenant des harmoniques parfaitement équilibré, et comment cette voix, en se désaccordant, va se faire l'image du désaccord du corps, c'est-à-dire du déséquilibre qui va s'installer somatopsychique du corps, qui intéresse beaucoup les thérapeutes oui. aujourd'hui, l'équilibre entre le corps et l'âme, bon. Et comment il peut se reconstituer. Donc le spectacle se terminera sur la dimension vraiment thérapeutique, et tout en repartant du traité de médecine et du physica.
Alors vous avez parlé justement de musique, des instruments qui accompagneront ce spectacle, car je crois que sur scène, il y aura donc une comédienne qui incarnera Hildegard
tout
de Bingen,
voilà,
des chanteurs de l'ensemble médiéval Vox in Rama, des instrumentistes, une percussionniste, bref, tout un chœur, tout un ensemble qui sera là pour proposer.
Exactement, voilà, parce qu'elle parle énormément des éléments, la médecine d'Hildegard est une médecine des éléments, et il est important de faire entendre les éléments dont elle parle. Donc voilà, tous ces instruments vont aider, les percussions, et puis tout le travail
médiévaux d'ailleurs,
voilà peu. Donc effectivement la nickelharpa qui est un instrument ancien, la harpe celtique aussi, tous ces instruments qui sont des colorations qui vont vraiment nous faire replonger dans l'univers sonore d'Hildegard de Bingen. L'idée étant que la comédienne Marie-Laure Saint-Bonnet vraiment puisse, enfin toutes les choses qu'elle va percevoir à l'instar d'Hildegard puissent résonner et que le public puisse vraiment vivre cette expérience. L'idée c'est d'externaliser, d'extérioriser l'expérience mystique qui souvent est intérieure et un peu cloisonnée. Voilà.
C'est aussi de proposer le voyage aussi par le biais musical.
Complètement, voilà. L'idée c'est ce voyage et de voyager avec Hildegard de Bingen pendant une heure. Voilà.
Alors on va écouter un extrait musical. Au Ortskis Ecclesia, peut-être Frédéric, pouvez-vous nous présenter ce morceau.
Alors,
en quelques instants.
C'est un chant très énigmatique puisque c'est le seul chant dont on a la trace écrite aujourd'hui qui emploie les mots de la langue inconnue d'Hildegard qui lui ont été inspirés par des anges. D'accord. Alors par exemple, le mot que vous venez de prononcer, Ortskis, n'est pas du latin ni aucune autre langue. Et il est un mot de cette langue imaginaire qu'elle l'a fait retranscrire dans son glossaire, traduit en moyen allemand et en latin, ou qui veut dire immense, sans fin, ou sans limite surtout, sans limite.
Alors on l'écoute tout de suite. Alors Frédéric Rentière, on parle en latin ou on parle avec la voix des anges là ?
Alors on parle un mélange des deux en fait. Alors ce chant m'a beaucoup intéressé pour le spectacle parce que j'ai souhaité le mettre en scène en fait. Ouais. Parce que finalement les gens vont en écoutant, à moins d'être un spécialiste de Hildegard de Bingen, on va dire bon, c'est un chant comme les autres, voilà, etc. Ben non justement. Et il témoigne justement que dans ce monastère, on chantait dans cette langue.
D'accord,
alors ça c'est très intéressant. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs c'est un des arguments qu'elle va donner aux gens qui vont l'enquiquiner en disant oui, ce que vous faites, ce n'est pas orthodoxe, etc. Elle dit oui, mais c'est une langue qui vient des anges et l'homme est censé chanter avec la langue des anges pour justement glorifier Dieu, etc. Et
alors l'institution a toujours été un petit peu méfiante à l'égard aussi de ces espèces de folies un petit peu mystiques. Quoi.
Oui, pas alors si c'est du lard justement, tout le problème c'est de savoir est-ce que c'est un délire ou pas. Mais alors aujourd'hui on sait que, en tout cas, du coup point de vue ecclésiastique, que ça ne l'est pas, puisque la question était tranchée. Il n'empêche quand même que cette démarche mystique, elle est fondamentale pour l'Église. Et d'ailleurs, je pense que l'Église boit beaucoup à ces grands mystiques, dans le sens où, à chaque fois, ils remettent au centre la question de la louange divine, la question de la transcendance, la question de la relation de l'homme à Dieu, et en remettant vraiment au centre c'est faisant de l'homme, enfin de l'épine dorsale de l'homme, cet axe homme-Dieu. Donc je pense quand même qu'on leur doit beaucoup. Mais effectivement, l'institution se doit toujours après d'essayer de en tout cas d'imposer un cadre clair. Voilà. Et donc par rapport à ça, justement, donc on a souhaité, j'ai souhaité remettre en scène ce texte et le reconnecter justement à la dimension médicale, parce qu'effectivement la langue angélique a aussi un pouvoir de guérison. Donc j'essaie de relier les deux. Voilà, donc il y aura notamment un travail
scénique. Et dans quelle mesure a-t-elle un pouvoir de guérison, cette langue angélique, Frédéric ?
Ben dans la mesure où il contient en fait des sonorités que même si la raison ne comprend pas, ces sonorités, elles, remémorent en fait à l'âme et au corps des harmonies qu'il a peut-être perdu ou dont il n'a plus conscience, mais dont il a besoin pour se reconstruire en fait. Donc là, on est dans la question de la réédification de l'homme. Qui est très importante, qu'on retrouve beaucoup, qu'on retrouve pas simplement chez Hildegard de Bingen, qu'on retrouve dans la mystique juive, notamment la Kabbale, le Zohar ou d'autres. De toute façon, j'ai vu plein de correspondances dans d'autres religions. C'est-à-dire l'idée que l'homme n'est pas là. Bon, ben, ok, c'est un état de fait, on est imparfait, il y a des fois des souffrances, des tensions, mais l'idée, c'est qu'on est là pour travailler et on est là pour justement réconcilier la dimension terrestre et céleste. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est en cela qu'elle est très intéressante, Hildegard de Bingen, et qu'elle intéresse le monde moderne. C'est qu'elle est effectivement abbesse. Catholique, mais du XIIe siècle, mais sa pensée, elle dépasse largement, part complètement du XIIe siècle, elle est complètement pétrie du XIIe siècle, mais elle va beaucoup plus loin que le XIIe siècle. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on retrouve des résonances avec ce qu'on recherche plus ou moins intuitivement. Et c'est pour ça qu'elle est largement connue en dehors même de l'Église. Voilà, mais c'est cette dimension-là, sans tomber dans du New Age, qui caricaturerait finalement, voilà, ou sans tomber non plus dans une approche un peu frileuse, où on ne voudrait pas justement rentrer dans la dimension médicale, parce que vous comprenez, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, on prend ça avec des pincettes, voilà, ça risque de se brûler les doigts. Non, l'idée, c'est justement d'essayer de retrouver un équilibre, mais l'équilibre de l'auteur, tout simplement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ces auteurs, on en a besoin, on en a besoin particulièrement. Donc, pas occulter une partie pour la faire rentrer dans un cadre, justement.
Mais c'est de proposer justement Hildegard de Bingen dans sa totalité.
Et dans sa complexité.
Et dans sa complexité, bien
sûr. C'est ça qui nous apporte le plus. Alors, et après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà.
C'est ça, chacun prend après ce qu'il a à apprendre. Frédéric Rentière, ce spectacle donc, va se dérouler à partir de ce vendredi 5 mai et samedi 6 mai à 20h donc à l'église évangélique Saint-Marcel. C'est dans le 5e
arrondissement. Voilà, RER Port-Royal, c'est tout à côté.
Voilà. C'est en centre de Paris. Alors peut-être nous dire si ce spectacle est destiné à tous. C'est de 7 à 77 ans ou plutôt à des initiés.
J'aime bien la précision. il est ouvert à tous. J'ai souhaité ça justement. J'ai pas voulu que ce soit un spectacle d'initié entre guillemets. Je rigole en disant ça, mais voilà. C'est un spectacle qui est ouvert à tous. Parce que justement l'idée c'est qu'un phénomène qui est souvent traité de manière complexe et traité par des spécialistes émérites justement fait qu'il est cloisonné et qu'on n'ose pas aborder
le sujet. C'est hermétique après pour
c'est très hermétique. Voilà,
j'imagine qu'Hildegard a voulu que ses écrits aussi soient populaires, soient lus
certainement, elle a voulu que soit diffusé justement ce qui pouvait apporter justement à l'évolution de l'homme, à son humanisation surtout, et donc c'est vu dans cet état d'esprit là, donc c'est un spectacle qui pour moi va dans le sens d'une humanisation, en tout cas d'essayer de sentir ce qu'il y a d'humanisant chez Hildegard, et donc dans ce sens il est ouvert à tout le monde, il est ouvert à des gens qui veulent découvrir, des gens qui connaissent déjà, des gens qui peut-être même des gens qui sont déjà bien des gens très initiés, c'est ça l'idée, et aussi à des gens qui n'en ont jamais entendu parler ou qui sont curieux mais n'osent pas, parce que c'est justement l'intérêt d'une diffusion comme ça, c'est de ne pas trahir l'auteur et en même temps de ne pas occulter des aspects qui dérangent ou voilà, qui sont jugés dérangeant, mais justement de ce joyau, de le laisser briller avec toutes ses facettes et pour qu'il ait plus de chances d'atteindre une personne puis une autre et avec des attentes et un cheminement différent. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde.
Et à l'issue du spectacle, on en ressort peut-être renouvelé.
On espère.
Est-ce que les vertus thérapeutiques d'Hildegard de Bingen seront agissantes?
Ah peut-être. En tout cas, l'idée c'est qu'effectivement, ça... Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, que ce ne soit pas simplement une approche esthétique.
Et même de toute manière, quand on entend « O Ortskis Ecclesia », c'est un voyage complètement... on est ailleurs, on a l'impression d'être dans un monde.
Oui, on est dans un univers effectivement de couleurs et de sons, une ambiance qui n'est pas du tout effectivement l'ambiance qu'on voit dans le métro, bien sûr. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Mais l'idée, effectivement, c'est de travailler sur le fond de cette ambiance. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tout ça, que quand on écoute, on est dans une dimension différente?
Et pour aller peut-être plus loin, Frédéric Rentière, dire à nos auditeurs qui souhaiteraient peut-être se lancer dans le chant aussi, dans oui. cette initiation au chant, également à la pensée médicale du Garden de Bingen, oui. comment faire, comment vous contacter?
Alors, on peut me contacter via Voxinrama, donc voxinrama@gmail.com. Tout est sur le site de l'ensemble médiéval Voxinrama ou par mon site frédéricrentière.com où il y a aussi donc mon mail. Et j'organise d'ailleurs un stage de chant à partir des préceptes de Garde Bingen du 1er au 3 juillet. Alors justement, les gens qui s'intéressent, souvent des questions de thérapeutes, par exemple, qui s'intéressent à ça, ou des gens qui s'intéressent à Hildegarde mais n'osent pas trop, se disent « Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que je peux chanter? Vous êtes sûr que… » Voilà, voilà, donc il y a un stage qui aura lieu à Die, donc en Drôme, mm-hmm. du 1er au 3 juillet, en collaboration avec Catherine Roy, donc qui elle travaille justement sur… qui connaît bien la tradition de l'énergétique chinoise. Et on s'est rendu compte qu'à peu près aux mêmes époques, d'ailleurs, Hildegarde de Bingen, qui pourtant n'a pas de lien direct avec la Chine, a une pensée microcosme-macrocosme qui est extrêmement liée à la pensée chinoise. Mmh. Du coup, on travaille en dialogue là-dessus. Et l'idée étant de… Alors là, le thème choisi sera, et qui est d'ailleurs aussi illustré dans le spectacle, le monocorde intérieur.
Donc voilà, des chants à découvrir hein, d'Hildegarde de Bingen. Oui. C'est vrai qu'il y a des tas de choses à découvrir. Et puis ce spectacle, je le rappelle, ce vendredi et ce samedi 5 et 6 mai à partir de 20h à l'église évangélique Saint-Marcel. Et plus d'informations sur www.voxinrama.com. Merci.
Merci.